Hein. Donc, bienvenue pour cette table ronde de début d'après-midi des oniriques première journée. Donc, on va ici parler, le sujet de la table ronde c'est morphose, pas assez mort. On va essentiellement parler de zombies. Je pense qu'on ne se répondra pas éventuellement si on doit passer par des chemins détournés pour parler d'autres créatures, mais l'idée c'est vraiment parler du mort-vivant qu'est le zombie. Donc pour parler des zombies, à mon extrême gauche, ce qui n'est pas très sûr quand même. Nous nous retrouvons avec Karim Berouka. Donc Karim qui, après avoir raccroché le micro de Ludwig von 88, se lance dans l'écriture. Depuis sa première nouvelle sous l'aile maternelle de la mort en 2001, tu as publié pas moins de 18 nouvelles et 5 romans, dont le dernier en date, dont le premier en date, c'est La Porte en 2007.
Ouais.
Et le dernier en date, c'est Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie, comme son nom l'indique, qui vivot sa présence autour de cette table ronde. Ce roman qui voit un squad de punks représenter le seul salut face à une apocalypse zombie qui ravage Paris.
Tout à fait.
Le roman a reçu le prix Verlanger en 2016. Donc voilà pour Karim Berouka.
Tu bois.
Au centre gauche, Aurélie Mendonça. Donc après une première nouvelle en 2009, Dualité et sorcellerie dauphinoise, Aurélie poursuit avec 4 romans. Le diptyque Tarot divin en 2012 et 2013, qui lui se penchait davantage sur le thème du vampire, et suivi de Zombition en 2014 et Zombiguité, qui lui voit s'intéresser à la figure du zombie. Donc une série qui en appelle à l'influence de Buffy contre les vampires, mais qui fait de zombies la menace la plus lourde à peser contre l'humanité.
Exactement.
Et à ma droite, après, ça préjuge de rien, Frédéric Zillinder. Donc depuis ton premier roman Nouveau venu dans le quartier en 2008, tu as publié 2 nouvelles, dont en 2012 dans l'anthologie Zombies et autres infectés. Donc déjà une prédisposition avec le mort-vivant dont l'odeur est vraiment insupportable. Avant de revenir à la forme longue, sur la même thématique avec Wake the Dead, un roman calibré young adult qui met en scène une infestation zombie le jour d'Halloween dans une petite ville du Massachusetts.
C'est ça.
Donc, eh bien, pour commencer à lancer un pavé dans la mare sur le thème du zombie, comment expliquez-vous l'avènement du zombie en littérature alors que la créature semblait jusque-là particulièrement cantonnée au cinéma ? Ou en série télé avec Walking Dead, parce que c'est vrai que la littérature sur le thème du zombie, on a énormément d'images en tête, hein, avec le zombie de Romero, avec la nuit des morts vivants de Romero, pour beaucoup avec Romero, mais le premier film sur le sujet n'était pas en Romero, vu que c'est White Zombie avec Bela Lugosi. T'as un truc avant ?
Non, je suis pas d'accord.
D'accord. Mais t'as droit. Non, ouais. Mais justement, on dit.
Non, je pense que le zombie de Romero, il est très différent du White Zombie, parce que le zombie haïtien qui existe depuis je sais pas quand, mais qui est une légende, a pas les mêmes caractéristiques. C'est ça fait partie plus ou moins du voodoo et du voodoo.
On en reparlera après.
Ouais. Mais le Romero, il y a vaguement un film qui s'appelle The Last Man
on Earth.
On Earth, qui est la première version de ce qui deviendra après.
The Omega Man, puis voilà, Je suis une légende.
Voilà, Je suis une légende. Où effectivement, tu as des zombies qui vont comme ça. On ne sait pas pourquoi. C'est pas qu'ils sont, mais ils sont morts. Alors que les zombies de Bela Lugosi, c'est vraiment du
folklorien.
Ouais,
c'est barbe samedi.
On attrape des gens, on les fait revivre et puis on les exploite. C'est pas l'invasion zombie, c'est pas le zombie qui attaque et puis ils bouffent pas les cervelles des gens.
Oui, c'est vrai qu'il y a pas de notion d'invasion en fait.
Ouais. Mais il y a d'autres films. Il y a d'autres films de zombies avant, même en muet, qui sont pas très intéressants. Mais et puis voilà, c'est pas. Je pense que c'est vraiment Romero qui invente ce truc. Ce mythe qui est probablement le mythe le plus récent dans l'histoire des mythes et qui a explosé d'abord au cinéma puis maintenant effectivement à la littérature.
Mais du coup, toi, tu expliques comment le fait que l'avènement littéraire du zombie en fait.
C'est la mode. Non, je sais pas. Je pense que le cinéma c'est un moyen d'expression. Les gens aiment beaucoup ça en ce moment, donc il y a des auteurs qui s'y sont essayés. Même si le zombie à l'écriture il est quand même difficile, il n'est pas visuel, donc vu qu'il l'est peut-être beaucoup au cinéma, on arrive à des problématiques qui ne sont pas faciles à résoudre quand on écrit une sorte de zombie. On ne peut pas C'est difficile de raconter, la nuit des morts vivants sur un bouquin. Quoi, ça.
C'est fait, il y a eu un bouquin.
Ouais.
Un peu chiant.
Bah, c'est ça.
après, avec l'écriture, c'est vrai qu'on peut, utiliser le zombie comme un phénomène sociétal, dire pas mal de choses qui se passent dans la société d'aujourd'hui, qui est peut-être plus facile à écrire avec des longues phrases que visuellement sur un film. Peut-être que c'est ça, les auteurs ont récupéré.
Toi, c'est un peu plus ton avis.
Ouais, enfin, c'est ce que j'ai lu aussi à droite à gauche.
Mais... Je te rejoins tout à fait, par exemple, sur le roman de Stephen King, Cellulaire, où effectivement, c'est clairement une critique de la société qui est hyper connectée, voilà, où les gens deviennent des zombies parce qu'ils sont complètement addicts à ces technologies et font plus gaffe à ce qui se passe autour d'eux, quoi. Donc, il n'y a qu'à voir dans la rue, on voit tous les gens qui marchent avec leur téléphone, qui font pas gaffe à la signalisation, à la circulation, aux autres piétons. Voilà, c'est.
Ils avaient commencé avec les Walkman.
Oui.
Enfin, nous avions commencé.
Mais c'est vrai qu'il y a cette idée peut-être de politisation du zombie qu'on n'a pas forcément dans les autres créatures surnaturelles. Je lisais justement un article assez récemment là-dessus, justement, où il y a quelques années, où on faisait le parallèle entre le nombre de productions sur les zombies et les vampires par rapport à quel parti était au pouvoir aux États-Unis, que a priori justement les républicains donnaient lieu davantage à des films et des livres sur les zombies et les démocrates davantage au thème du vampire.
Mais le zombie en lui-même il est pas politique, hein. Le zombie il essaie de faire valoir de l'histoire en fait. Le vampire ou je sais pas le loup-garou, c'est un personnage qui peut interagir, c'est un personnage qui est intelligent, qui zombie il est juste idiot, il est juste très fin.
Ouais, justement, c'est bien un reflet de la société, sans cerveau, qui suit quelque chose.
Oui, mais ça c'est un peu le thème qu'on a défendu suite au deuxième Romero, là, avec les scènes dans le supermarché.
Le zombie, ouais.
Mais je suis pas certain que ça soit présent dans toutes les histoires de zombies, hein. En tous les cas, clairement pas dans les films qui basent sur le côté très visuel et très. Très dramatique, en fait, de mettre une tension dramatique avec ces gens qui sont toujours en train de courir, avec le danger qui est présent. Après, l'idée du zombie, ouais, peut-être que c'est le. Ce qui en fait le succès, c'est que c'est le voisin qui tout d'un coup se transforme en monstre. Et ça reflète probablement l'incompréhension qu'on a des gens aujourd'hui et la capacité qu'on peut avoir à vivre dans une communauté où le voisin. Et vraiment quelqu'un qu'on peut croire, je sais pas, c'est peut-être une peur irrationnelle, de toute façon c'est une peur irrationnelle, de l'autre en fait, mais de l'autre qui est quand même, qui est très présent, c'est plus la menace extraterrestre, c'est plus l'invasion de l'URSS, c'est le voisin, c'est la sœur, c'est des fois des membres de la famille qui deviennent monstrueux, d'une manière monstrueuse qui est inexplicable, parce que généralement personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Et qui est incontrôlable, quoi, qu'on ne peut pas raisonner, c'est pas...
D'ailleurs, ça s'est accéléré ces 20 dernières années au cinéma, où on avait jusque-là des zombies, effectivement, comme ceux de Romero, qui avancent lentement, donc en fait, qui submergent toujours les non-zombies, enfin les vivants, par leur nombre. Et là, depuis notamment Resident Evil, depuis 28 jours plus tard, on assiste à l'émergence de zombies ultra rapides, où il faut courir plus vite qu'eux, sinon on se fait bouffer. C'est même plus une question de nombre. C'est vraiment une question d'échapper à la menace, comme dans Bienvenue à Zombieland, pareil. Effectivement, ils sont toujours ultra rapides, il faut toujours courir.
Vous avez justement choisi tous les trois de faire des zombies les antagonistes de vos personnages, en fait. C'est vous avez choisi volontairement que le zombie ne soit pas le personnage principal. Il y a eu quelques cas quand même récemment de romans en fait qui s'essayent justement à faire du zombie le personnage principal, et notamment il y a un roman young adult en fait qui parle du principe de deux lycéens en fait qui se transforment en zombie et qui continuent de
zombie.
Hein,
c'est zombie, c'est ça,
je sais plus comment ça s'appelle en fait.
Moi j'ai lu un bouquin qui s'appelle Zombie ZOM-B.
Oui.
Donc c'est ça en fait, c'est l'histoire d'un collège anglais où d'abord des zombies arrivent. Deuxième tome, en fait, l'héroïne, à la fin du. Bon, je spoil un peu, mais. À la fin du premier tome, devient zombie, et après on la suit.
Et est-ce que selon vous, il y a une impossibilité, justement, à faire du zombie le protagoniste principal ?
Oh non, ça a déjà. De toute façon, ça a déjà été fait. Puis c'est, alors, il y a un film, j'arrive pas à me rappeler, mais qui est adapté d'un roman pareil, Young Adult, où c'est. Il y a eu une. Pardon ?
Oui, c'est ça, c'est celui-là,
voilà, où effectivement, le personnage principal, le narrateur, est un zombie. Donc, bon, c'est pas incompatible, mais par contre, ça veut dire qu'il faut passer outre le cliché du zombie complètement décérébré. Parce que pour qu'il soit effectivement le pivot central de l'histoire, ce personnage, il faut qu'il ait quand même un minimum de raisonnement, quoi. Donc là, on passe à une étape supérieure, celle de zombies qui ont gardé une certaine capacité à raisonner.
Ouais. Ce qui est intéressant avec les protagonistes qui sont zombies, c'est justement comment ils peuvent se réintégrer à la société derrière. Il y a la série anglaise In the Flesh, qui est justement comme ça. Ils ont trouvé un vaccin contre la maladie qui les rend zombies, et il y a tout un discours sur comment accepter ces gens qui ont fait de la merde à un moment, et les réintégrer dans la société en ayant peur d'eux, mais il faut quand même leur faire faire quelque chose. C'est assez intéressant aussi de voir ce point de vue-là.
Ce que fait aussi le film Les Revenants, en fait, même si c'est pas des zombies, c'est vraiment ces petits cas, c'est des gens qui reviennent d'entre les morts et qui sont devenus inadaptés à la société et qu'on essaye de réintégrer, quoi.
C'est un peu les gens qui reviennent du chômage, en fait, c'est ça.
Oui,
on revient à la dimension politique et sociale du zombie. Hein.
Okay. Et l'histoire de faire parler des zombies ou penser des zombies, c'est que autant dans le film on peut s'en passer parce que on a un côté très, très visuel. Dans le roman, sur 300-400 pages, si on veut faire autre chose que des scènes de poursuite avec des zombies, à un moment, il faut qu'il se passe quelque chose. Et souvent, moi, j'ai passé sur pas mal de bouquins en tant qu'éditeur, les séries aussi, donc c'est encore pire, une série de 5 volumes avec que des gens qui courent, qui sont coursés par des zombies. Donc les auteurs ont tendance, évidemment, à introduire des zombies qui commencent à réfléchir, qui interagissent autrement qu'à essayer de bouffer le cerveau du dernier survivant. Il y a un bouquin aussi qui s'appelle Zombie Ohio, qui n'est pas très connu, mais qui est assez intéressant. C'est un zombie aussi. Un mec qui se réveille et qui voit tout ce qui lui est arrivé, et en fait, il s'aperçoit au fur et à mesure qu'effectivement, il est zombie. Mais ça casse un peu aussi le mythe de la créature décérébrée, incontrôlable, qui a juste des pulsions et qui représente une sorte de peur indéfinissable et qu'on peut pas, avec qui on ne peut pas parler, on peut pas, il n'y a rien à faire à part de soit fuir, soit détruire, quoi. Mais bon, voilà. Et je vous avoue que faire un roman avec des zombies qui font juste faire brain ou cerveau, c'est pas très intéressant et c'est un peu long. Sauf si on est très doué, mais c'est pas mon point.
Et au niveau justement de la manière de mettre en scène le récit, et la direction dans laquelle va le récit, pour deux d'entre vous, donc Karim et Frédéric, en fait, on est vraiment dans ce qu'on appelle un récit de survie, en fait, c'est du survivalisme, en fait, quelque part. Ouais. Alors que toi, justement, c'est pas vraiment l'optique que tu as choisi dans ton roman. On aurait plutôt tendance à croire que justement le récit de zombie, de base, on va vers cette idée du survivalisme post-Romero. Est-ce que c'était volontaire ou et est-ce qu'il y a d'autres manières de, selon toi, est-ce que tu aurais pu partir dans une autre direction par rapport à cette idée justement d'une apocalypse zombie ou
Je sais pas, moi je voulais juste faire un pari avec dans le chaos avec une bande de punks qui finalement se permettent tout ce qu'ils n'ont pas pu se permettre avant et puis se demander au bout d'un moment comment reconstruire le monde et se dire oh c'est génial, on va pouvoir faire enfin une société libre, égalitaire, tout ça. Donc le zombie, pour moi, c'est vraiment le fer valoir de l'histoire. Donc ça aurait pu être une apocalypse, mais ça vous dire de jouer avec ce stéréotype, c'est un truc qui j'avais envie. Voilà. Mais après, non, c'est pas tant du survivalisme que ça, parce que justement, les personnages du roman n'ont pas cette envie de survivre à tout prix, ils ont juste envie de faire des conneries.
Ils ont envie de s'éclater dans les conditions actuelles.
Ouais. Donc ils n'ont pas la même logique que le groupe de survivalistes américains qui se retrouve perdu dans les Appalaches avec son arc et son couteau.
Walking Dead, Last of Us et tout.
Ouais, le truc un peu très classique qu'on voit aussi dans beaucoup de romans américains où on se fédère autour du groupe, autour du chef qui est le leader, qui est avec les éléments faibles qui vont se faire bouffer plus rapidement parce que c'est faible. Hein.
Qui était même en dehors du roman zombie, parce que typiquement, un film américain comme Le Délivrance de John Borman, on est déjà plus ou moins dans ces deux petits cas, même si c'était pas des zombies, c'est du.
Oula, c'est différent, Délivrance.
Là, c'est du survivalisme. Tu parlais des mecs avec leurs arcs.
Ouais, mais ceux qui survivent, c'est pas sur le héros, enfin le plus balèze des trois, c'est plutôt. L'idée de délivrance, c'est de survivre parce que c'est l'histoire. Je sais pas si vous connaissez le film, c'est trois mecs qui vont se balader dans les montagnes et dans les Appalaches, vraiment des coins assez circulés aux États-Unis, et qui tombent sur une autre bande de cinglés qui.
Les rednecks.
Véritables cinglés, quoi. Mais donc, effectivement, ils sont obligés de survivre, mais il y a quand même une vraie. Solidarité entre les trois, il n'y a pas d'histoire de constitution de groupe, c'est plutôt une sorte de thriller ça se ressemble, ça se rapproche plus du film d'horreur où il y a une bande de Jones qui se retrouve dans un château ou dans un endroit où il y a un truc qui va pas et ils s'amusent tous à se séparer pour aller. Nous ne séparons pas, puis ils font tous pour un moment.
Et toi, justement, par rapport à ça. Et désolé, quand même.
Non,
par rapport à cette idée justement de survivalisme, tu as choisi vraiment de partir dans.
Moi en fait, je suis déjà pas partie sur le zombie classique. Enfin, j'ai pris un classique, mais plutôt du côté du vaudou. Donc, c'est des zombies qui sont magiques, il y a des maîtres sorciers qui les font venir. Donc, c'est plus une menace qui est très localisée, avec des gens qui sont capables justement de les localiser et de les tuer. Donc, c'est pas vraiment de la survie, c'est de la protection. Mais comme Buffy, c'est des vampires, là, c'est des zombies.
Du zombie historique.
C'est du zombie historique, ouais. Je suis partie sur vrai zombie du départ.
Et toi, on retrouve quand même cet aspect survival presque.
Alors, par la force des choses, puisque effectivement, quand les zombies débarquent, quand les morts se réveillent, puisque c'est pas une invasion de zombies, c'est ni plus ni moins que tous les morts de la ville. Donc depuis des décennies, voire depuis des siècles, tous ceux qui pourrissaient dans la terre, etc., reviennent à la vie tous ensemble, effectivement. Un certain nombre de personnages de cette ville, par la force des choses, sont obligés de s'unir pour essayer d'éviter la menace. Après, c'est du zombie comme ça aurait pu être une invasion extraterrestre. Parce que moi, l'objectif, c'était plutôt d'écrire un teen movie. Donc, en reprenant les codes, les clichés, les personnages stéréotypés, etc. Donc effectivement, bon, c'est tombé sur les zombies parce que ça se prêtait bien, mais ça aurait pu tout à fait bien être effectivement une invasion extraterrestre. Voilà. Donc là, on est sur du zombie plutôt lié à de la nécromancie, puisque c'est une histoire de malédiction qui a 300 ans, qui malheureusement se réalise cette nuit-là à Halloween, et avec tous ces morts qui se réveillent pour que la ville soit anéantie, en fait. Et effectivement, on retrouve ce côté survivalisme, puisque les quelques personnages qui parviennent à échapper à l'effet de surprise de l'avenue des zombies passent leur temps à courir, à se barricader, etc., avec effectivement régulièrement le décompte macabre qui continue et les morts qui tombent, etc. Enfin, qui tombent, qui se relèvent, et puis voilà.
Et justement, du coup, tous les deux, vous êtes bien dans cette optique, dans vos deux récits, on a une explication en fait à d'où viennent les zombies quelque part. On sait à un moment ou à un autre l'origine de la malédiction.
Ouais, ouais.
Toi, par contre, du coup, tu t'es passé complètement. Enfin, c'est pas du tout l'intérêt de ton.
Non, ça. C'est...
Pour toi, ça. L'origine même de du. Le pourquoi de la situation, ouais. C'était pas le.
Non, je pas. Voilà, personne ne sait dans l'histoire, donc moi non plus. De toute façon, c'est pas le but, c'est pas d'expliquer, c'est d'observer une situation qui est aberrante, en fait, qui n'arrivera jamais. Ça n'existe pas, les zombies, je vous rassure. Mais c'est intéressant, de toute façon, le fait de parler de zombies à la mode haïtienne, on va dire,
ouais.
Parce que ça, c'est plus du tout, justement, à la mode.
Oui, on a perdu ce truc-là, ouais.
D'ailleurs, les gens ne savent pas, hein. Ils pensent que j'ai inventé tout le truc. Non, c'est... Je me base sur des faits réels du vaudou.
Et quand on était plus ado, il y avait un jeu en fait qui jouait là-dessus dans Atmosphere.
Oui, c'est vrai.
Avec VHS, ouais, t'avais un méchant qui était le Baron Samedi en fait, qui est un des emblèmes finalement du zombie haïtien quoi. Mais c'est vrai c'est une de mes questions d'ailleurs, cette idée justement qu'on a complètement perdu les origines folkloriques du zombie. Finalement, le zombie s'est réinventé en autre chose à un moment. On a complètement occulté sa source folklorique pour. Et finalement, à partir de là, on a l'impression qu'on ne s'intéresse plus du tout à d'où il vient Mais ce qui est intéressant, c'est surtout d'étudier la manière dont les zombies et les humains vont...
Je pense qu'il a surtout gardé le nom. Entre... Enfin, il n'y a pas vraiment de pont entre le zombie de Romero et le zombie de...
C'est pour ça, des fois, on fait la distinction entre zombie et mort-vivant.
Ouais. Oui, mais on est plus dans le mort-vivant.
Ouais, c'est ça.
Tu parlais justement tout à l'heure de Last Man on Earth, comme adaptation de Je suis une légende, qui normalement... C'est censé être des vampires au lieu d'être des zombies, en fait, à la base dans le bouquin, fait. Hein. Il lit Bram Stoker, il met de l'ail sur sa porte, il joue avec le crucifix. Sauf que les films, c'est ça qui est marrant, du coup, c'est que à la base, c'est ce qui est quand même un roman de vampire. Ouais. On a complètement oublié ça, et dans le dernier film, le film avec Will Smith, c'est purement des zombies, en fait.
Ils
ont perdu ça, ils ne s'arrêtent
pas. C'est peut-être lié au fait que dans le roman, les vampires, enfin, sur une bonne partie du roman... Les vampires sont vraiment des créatures sauvages. C'est peut-être là le parallèle, le raccourci qui a été trouvé après au cinéma. C'est de se dire finalement, parce que bon, on a l'habitude de voir les vampires plus souvent quand même comme Dracula, comme des êtres pensants, doués de raison, etc. Alors que dans le roman, effectivement, c'est vraiment des créatures sauvages qui se précipitent sur sa porte dès la nuit tombée, il est barricadé, etc. Et le raccourci était facile peut-être. De manière audiovisuelle, de partir plutôt là-dessus. Oui.
Mais dans le deuxième, là, dans celui avec Charlton Heston, c'est clairement des. Je crois qu'ils les appellent des vampires, hein. Ça ressemble pas du tout à des zombies. Hein. C'est vraiment...
Ça ressemble plus à des zombies qu'à des vampires, je trouve. Ah ouais. Ils ont un côté un peu terreux au niveau du teint. Dans les yeux Megaman, ouais, en fait. Hein.
Même avec Will Smith, ils peuvent pas aller au soleil, ils réfléchissent quand même.
Mais c'est le seul truc qui reste dans le mythe du vampire, c'est ce côté soleil, sinon. Ça ressemble quand même vachement plus à des zombies. On joue plus du tout sur l'idée que le protagoniste principal dit Bram Stoker, fils de l'ail, des crucifix, parce qu'il joue vachement sur sur la thématique.
Même la version avec Will Smith, à la fin, on rencontre pas de nouvelle race qui est douée de raison, comme dans le roman, quoi.
Justement, ils ont changé le pourquoi du titre, en fait.
Mais on va pas parler d'adaptation.
Ce truc qui est une aberration. Peut-être ça aussi, c'est vrai.
Ça fait quand même effectivement ce qui fait peur en masse.
C'est la grosse différence qu'il y a eu, justement, en effet, qui fait peut-être que ce livre-là n'a pas été compris dans son côté vampirique, mais dans l'idée de l'épidémie de l'invasion. C'est la masse et le côté. Enfin, il ne reste plus qu'un seul être humain et tous les autres autour de lui, c'est des décérébrés, en fait. Hein, donc, et oui, il y a vraiment peut-être ce côté épidémique aussi, peut-être que.
Parce que probablement qu'elle est. Voilà. Précurseur, peut-être à l'époque, il l'aurait écrit aujourd'hui, il aurait plus mis des zombies. Je ne sais pas si c'est aussi l'intérêt principal du livre.
Mais je pense que.
On parlait de l'origine des zombies, notamment entre nous. De nos jours, le traitement de l'origine des zombies, c'est souvent lié à un virus.
Oui.
Et les zombies, c'est que le symptôme, quelque part, de cette peur du virus qui est très.
Après, ça fait. Très sociétal aussi, puisque la guerre, maintenant ce qu'on craint, c'est une guerre biologique. Du coup, le virus, les zombies, c'est facile de rentrer dedans pour faire peur en plus.
Ouais, mais je crois que ça n'a pas trop d'intérêt de savoir où ils viennent. Je crois que dans le premier numéro, c'était quoi, un satellite radioactif ou un truc comme ça?
En la semaine? La nuit des morts vivants.
Je crois que de toute façon, c'est assez rationnel comme au niveau de la cause. Alors, virus, ça fait un peu plus crédible quand même parce que. Dans 28 jours, oui, effectivement, ça pourrait être une sorte d'orage amélioré. Mais après, c'est pas chercher la crédibilité à non, parce que de toute manière, comment des créatures qui ne mangent pas, à part de la cervelle ou des bouts de la viande, vont survivre, passer une semaine, deux semaines, trois semaines, quand il n'y aura plus personne, quoi.
De toute façon, c'est ce qui se passe dans 28 jours après, parce que de toute façon, c'est pas des morts vivants à proprement parler, c'est juste des infectés, et qui crèvent de faim à la fin, donc...
Puis c'est vrai, il y a ce côté peut-être, en effet, de la médicalisation et de la scientifisation du thème du zombie, en fait. Hein. On parle beaucoup de l'origine virale, d'épidémie. Justement, dans Je suis une légende, dans le dernier film, le héros, en fait, devient une espèce de scientifique à l'origine même, quelque part, de ce qui se passe. ce qui n'est pas du tout présent dans le début. En fait, c'est un Pékin Lambda dans le, dans le bouquin, si je me rappelle bien. Hein.
Ouais, dans le deuxième film aussi. Mais c'est vieux, là.
Karim, mis à part ton historique personnel, pourquoi avoir choisi de faire d'un squad de punk les sauveurs de l'humanité?
Eh bien, pourquoi pas? Pour une fois que c'est pas,
les victimes.
Les Américains. En fait, ils ne sauvent pas l'humanité. Hein, je voulais juste décaler le truc. Je voulais que ça se passe à Paris, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe à Paris au niveau zombie. L'activité zombie est assez réduite à Paris. Et j'ai rien contre les gens qui écrivent des histoires de zombies ailleurs, hein, mais bon, c'est marrant, hein, pour y a plein de choses à exploiter sur Paris, qui a plein de symboles et plein de... Et puis je voulais des personnages qui étaient différents du groupe lambda qui devient un groupe de survivalistes. Je voulais cette collaboration, une bande de mecs qui n'ont absolument rien à foutre que la société, qui sont même contents que ça soit la fin du monde, que la société s'écroule. C'est peut-être aussi une aubaine pour eux, ils sont contents, on peut tout énerver par la police, ils vont faire n'importe quoi dans la ville, et puis ils vont surtout pas avoir ce réflexe premier en disant on va se fédérer, on va survivre, on va lutter, et en fait ils sont juste complètement déconnectés. Ils en ont absolument, pendant la première partie du bouquin, ils sont juste là pour faire des conneries, on va dire. Et ensuite, ils se disent, ben voilà, c'est l'occasion de faire une société égalitaire, on va faire un monde parfait, on va faire le monde qu'il faut pour... Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas laissé le survivant. Mais c'était juste par rapport aux clichés qu'on a souvent du groupe de survivalistes, du groupe de redneck, ou du groupe de... Parce que j'ai lu pas mal de bouquins que je vous ai dit, je me répète. Le truc qui sortait chez Panini Books, qui est un petit... Et c'était souvent des trucs écrits par des Américains, c'était très militariste. Et ça me saoulait, en fait. On avait un peu marre du groupe de mecs virils et machos qui emmenaient des femmes avec eux, parce que quand même, il faut emmener des femmes, mais donc si vous avez pu les laisser, parce qu'elles tournent moins vite. Ou alors c'est vraiment parce qu'elles savent manier le M16. Donc ça, on le voit aussi pas mal au cinéma, pas dans tous, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui essaient de diversifier le thème, mais c'est quand même des thèmes assez récurrents. Donc je vais faire l'opposé, mettons des punks, mettons Paris, mettons de l'anarchie. Voilà. Et puis pensons à qu'est-ce qu'on va en faire de parce que souvent on a le chaos, en fait, on a le chaos, on a la survie, puis c'est tout. Mais après le chaos et la survie, on reconstruit comment? On se refait des communautés fermées sur nous-mêmes, on refait la même chose, donc eux ont le projet de faire quelque chose de libre, après c'est un projet, c'est une nouvelle utopie.
Et Aurélie et Frédéric, par contre, vous avez davantage choisi les États-Unis, ou du moins une petite plus mondiale, parce que toi c'est...
Moi ça se passe à Lyon.
Ok, vous savez, toi comment vous avez fait,
ouais. Lyon, ouais, ça se passe bien à Lyon, dans le vieux Lyon, ouais.
Et la difficulté justement de choisir la France, pas vraiment une terre d'élection du zombie versus les États-Unis? Non, pourquoi?
Moi, c'est les États-Unis, clairement, parce qu'au départ, c'est un hommage au teen movie. Pour moi, le teen movie, c'est américain. Ouais, voilà. Oui. Mais effectivement, ça aurait pu se passer dans une petite ville de France. Hein. Mais voilà, comme c'est un hommage au teen movie, c'est aux États-Unis.
Voilà. Toi, du coup, Lyon
Parce que j'habite à Lyon. C'était plus simple pour les décors. Et puis, c'était vrai que c'est sympa de ne pas faire ça aux États-Unis. Eux, ils ont une espèce de religion des armes, donc forcément, le premier lambda peut avoir une arme à feu et dégommer du zombie. En France, c'est un peu plus compliqué.
Ça change tout, hein, effectivement. Ouais, comme tu disais,
c'est ça, donc il faut se débrouiller avec ce qu'on peut.
Ils ont de la beuh, limite, quoi.
Ouais, mais bon,
d'autres trucs un peu.
Ça aide à relativiser le problème.
ça pas à agir sur le problème.
C'est la Z-Weed.
Non, mais effectivement, tout le monde se balade pas avec des flingues aux États-Unis non plus, mais beaucoup de gens sont armés aux États-Unis, et clairement en France, non, quoi. On est vraiment pas équipé pour une invasion zombie, il va falloir en parler au gouvernement.
Voilà.
Ah,
on va
attendre. Ouais.
On verra s'ils
sont sensibles au problème. Peut-être s'équiper contre le gouvernement, finalement.
Mais je ne sais pas si... Hein, je veux dire, en plus, aux États-Unis, il me semble avoir lu quelque part que dans leur plan de prévention des catastrophes, ils ont un plan en cas d'épidémie zombie.
Non, ils ont fait des simulations parce que c'est un plan de prévention d'une panique généralisée. Quoi. Je ne pense pas qu'ils prennent très sérieusement le fait que... Mais d'une infection, je ne sais pas. Après, en général, les infections, les grandes épidémies, ça ne rend pas les gens dingues. Vraiment, ça rend les gens malades, faibles.
Et morts.
Et morts.
On arrive aux zombies. Hein.
Donc, du coup, après, on s'arrête là. Ouais.
Jusqu'à maintenant, on s'arrête là.
Ouais. Après, mais pourquoi pas, on peut toujours... Mais c'est un thème récurrent dans l'histoire de l'humanité. C'est morts qui se réveillent, c'est morts qui viennent te hanter. D'ailleurs, c'est un truc qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est la fin du monde, tout le monde meurt et tout le monde renaît. C'est très, très biblique. Hein. Donc on va attendre le jugement dernier à ce moment-là et l'arrivée de... Voilà, c'est là. Ouais, non, mais c'est le jugement dernier. Donc c'est un peu cette image-là. Mais par contre, on a quand même des petits groupes qui luttent contre ça. Et généralement, ces petits groupes souvent d'Américains qui sont très pro... on va refaire flotter le drapeau américain. Mais en fait, ils se lèvent contre le pouvoir du Christ. Donc c'est un peu des satanistes, en fait.
Alors que souvent, oui, ils se veulent...
Oui, alors il y a Dieu, la famille, c'est parce que c'est très américain.
Mais par contre,
moins à Lyon.
Ouais, non, à Lyon, ça va.
Par rapport à ce que tu dis.
À Lyon, oui, il y a des quartiers où
oui.
devant leur envoyer des zombies.
Ce que tu disais, justement, par rapport aux États-Unis, c'est que la peur, justement, de l'épidémie, de l'apocalypse, quelle qu'elle soit, est vraiment ancrée chez eux. Il y a quand même énormément de milliardaires qui se sont fait construire des bunkers dans leur jardin.
Sans aller jusqu'aux milliardaires, j'ai fait des recherches pour les besoins d'une histoire sur le survivalisme. Et les exemples les plus dingues, tu les trouves aux États-Unis, quoi. Avec des gens qui se regroupent en communauté pour mutualiser leurs ressources, qui construisent des abris où se réfugier en plein désert. Ils sont prêts à tuer père et mère, les gens qui se mettraient en travers de leur route. C'est ultra secret. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Alors chez nous, bon, c'est pas. Enfin, je suis tombé sur quelques tarés français survivalistes, mais c'est plus compliqué parce qu'effectivement, notamment du point de vue de l'autodéfense, comme on peut pas être armé comme aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je suis quand même tombé sur un site, par exemple, un gars qui expliquait comment transformer un revolver poudre noire, donc on est en droit de détenir dans notre pays pour aller au stand de tir et tirer des balles en plomb, comment le transformer en remplaçant le barillé pour pouvoir tirer du 45, quoi. Donc c'est des gens qui sont pas tranquilles. Ah oui, très très nombreux.
Il y a cette problématique aussi qui est liée aussi à ce qu'est le zombie, que toi tu abordes et que vous deux vous n'abordez pas trop. En fait, c'est peut-être la hiérarchisation au niveau des zombies. En fait, enfin, ils ne sont pas tous sur le même plan, il y en a certains qui finissent par se détacher. Ce que tu disais, c'est que pour arriver à mettre en scène des zombies, au bout d'un moment, il va falloir quand même casser un peu la logique de base qui veut que le zombie soit décérébré et que certains soient peut-être un peu plus intelligents que les autres et que du coup vont agir différemment pour agir.
Toi, après, c'est vrai que moi c'est très historique. Du coup, c'était vraiment les sorciers vaudous qui à un moment se sont dit on va faire revenir tel neveu, telle nièce qui sont morts et ça a donné les premiers zombies. Donc forcément les sorciers vaudou restent intelligents, ils sont là depuis des millénaires et des millénaires parce qu'ils se régénèrent avec toute la magie qu'ils peuvent, mais les zombies lambda, oui, c'est leurs soldats. Parce que c'est comme ça dans la mythologie haïtienne avec les gens qui prennent des gens au hasard pour les faire, pour les zombifier.
Et au niveau des antagonismes, c'est vrai que toi par exemple dans ton roman, comme tu le disais, en fait, tu as choisi vraiment c'est un hommage à tout ce qui est team movie. Donc, tes différents personnages, finalement, c'est des archétypes.
Tout à fait.
On croise régulièrement.
Oui, de toute façon, c'est du cliché. Donc, il y a la pom-pom girl, qui est justement la petite amie du quarterback de l'équipe de foot. En face, donc, on a le rocker avec la gothique dépressive. On a le shérif débonnaire avec ses adjoints un peu idiots. On a la mémé à laquelle on s'attache et qui n'hésite pas à décrocher le fusil de feu son mari du râtelier pour aller casser du zombie. Enfin voilà, c'est vraiment... j'ai joué la carte du cliché à fond. Voilà. C'est du second, troisième degré. C'était pour... l'idée de départ, c'était d'écrire un film. Voilà, en quelque sorte, mais en roman. Donc,
Alors que c'est justement le zombie, de ma connaissance, n'est pas forcément super présent dans ce type de film, dans le teen movie en fait. Dans les trucs comme Monster Club ou d'autres films du genre en fait, où on a du teen movie face à des créatures surnaturelles, le zombie est un peu. C'est pas forcément. On voit plus avec du vampire, avec Fright Night ou Frontière de l'Aube ou des choses comme ça en fait. Ouais. Donc c'est plus sur d'autres créatures et pas franchement le zombie en fait.
Voilà, c'était l'idée c'était d'arriver à décimer une population de 14 000 habitants en une nuit. Donc bon.
Le zombie, ça marche.
C'est le zombie, c'était bien.
Ouais, c'est vrai qu'après, nous sommes les vampires, on se retrouve dans sachant le d'un Salem.
Voilà, sachant qu'effectivement, il y a les. Enfin, il y a. Il y a une phrase d'un roman d'Androvon qui s'appelle Un horizon de cendres qui m'a marqué à un moment. Il dit, d'ailleurs, je l'ai marqué en tête dans le truc, c'est, il y a plus de morts que de vivants. Et si effectivement, aujourd'hui, on faisait revenir à la vie tous les gens qui sont morts, on serait complètement submergés. Donc c'était un petit peu l'idée, parce que ça commence avec les morts qui sont très récents, donc ceux qui viennent d'être ensevelis ou qui sont encore à la morgue. Donc après, il y a les morts du cimetière aussi qui sortent. Mais il y a également, j'ai volontairement... l'endroit où se situe l'action, il y a eu la guerre civile, il y a eu les guerres indiennes, etc. Et donc il y a énormément de cadavres ensevelis dans la tourbe qui les a un peu momifiés. Donc il y a énormément de morts qui reviennent. Donc à un moment, de toute façon, la population elle est complètement submergée, à part le noyau de survivalistes qu'on va suivre un petit peu jusqu'à la fin. Et voilà, c'était vraiment le zombie, ça s'y prêtait bien pour décimer une population entière en 24 heures. Quoi.
C'est aussi pour ça, du coup, de ton côté, que tu as aussi fait appel aux zombies. C'était pour que, du coup, ça fasse peut-être une espèce de reset de la société parisienne et que se retrouve un petit groupe.
Oui, en partie, oui. Mais c'est aussi parce que l'idée me faisait marrer, en fait, parce que j'avais envie de faire une histoire de zombies, quoi. Kick. Voilà.
Ouais. Et toi, en fait, le recours aux zombies, en fait, pourquoi avoir choisi.
J'avais envie d'écrire une histoire de zombies qui n'était pas comme ce que je lisais. Parce que moi, je lis plus des histoires de zombies classiques, Romero. Et là, j'avais envie d'une... C'est vraiment l'héroïne, au départ, qui m'a interpellée. Je voulais faire une héroïne rigolote, qui avait plein de problèmes de filles, et qui se trouvait à faire face à quelque chose. Et le vampire, j'avais déjà fait dans d'autres bouquins. Mmh. Les zombies, j'étais dedans.
Et du coup, les lecteurs, ils accrochent comment enfin, ceux qui ont pas, qui connaissent pas toutes ces légendes haïtiennes.
Alors, les puristes du zombie, vraiment, me détestent, pour de vrai. Ils détestent mon livre. C'est vrai. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup plus de lecteurs qui ne connaissent pas les zombies et qui apprécient ce justement, parce que c'est un peu plus léger. Il n'y a pas d'effet de masse, c'est moins réaliste que l'invasion zombie.
Voilà. En fait, tu sous-entends en fait que les puristes te reprochent le fait d'être revenu aux origines, en fait.
Alors, pas tous, mais c'est ce qui ressort des fois quand je discute avec des gens qui lisent tout ce qui se fait en zombie. Pour eux, le zombie, c'est Romero. Le reste, c'est du folklore, c'est pas forcément des zombies pour eux. Et du coup, ça rentre pas dans leur cadre de réflexion.
Moi, j'ai la même... De tous les bouquins que j'ai pu lire ou avoir bossé dessus, sur le bouquin écrit par des Américains, c'est très, très archétypal, hein. C'est toujours un peu les mêmes bases, et c'est toujours, alors il y a des variations au niveau de comment sont arrivés les zombies, des fois ils font des trucs un peu plus différents, des fois ils réfléchissent un peu, mais c'est vraiment, il y a des codes, comme un peu dans la fantasy, et c'est très bien d'en faire autre chose, hein, mais, ou alors de jouer, c'est marrant aussi, de pousser dans le sens des codes, tu vois.
Ouais, de jouer vraiment la carte du code.
Mais sur tous ces romans-là, il n'y a pas de deuxième degré, et c'est... souvent les mêmes histoires de gens qui survivent, qui les faibles meurent, il y a de plus en plus de zombies qui arrivent, ils sont méchants, ils mangent les cervelles, et on les tue. Et c'est marrant, 500 pages, 200 pages, 300, enfin, c'est très 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 répétitif. Et je pense pour ça que les gens qui aiment ça, enfin qui veulent ce genre de choses, vont pas se retrouver, quand tu leur parles de vaudou, de lion déjà en plus
lion, ouais, c'est
l'idée. Toi, par contre, tu as choisi en termes de mythologie de créer ta propre source à partir de légendes indiennes, en fait.
Non, c'est juste une. Enfin, je ne vais pas spoiler, mais c'est juste une histoire de malédiction, puisque l'histoire se passe au Massachusetts. Et 300 ans plus tôt, une fille a été accusée de sorcellerie, elle a été pendue, elle a jeté l'anathème sur la ville. Alors pourquoi ça se passe forcément cette nuit-là à Halloween, je ne sais pas. Mais voilà, il n'y a vraiment pas de rapport avec, avec les gens indiens.
Oui, juste que les indiens font partie de ceux qui sont...
C'est-à-dire qu'il y a des... Il y a des cadavres indiens, il y a des cadavres français, anglais de l'époque de la guerre civile, il y a pas mal de... Plus les cadavres dans les placards, bien sûr, parce que ce qui est intéressant dans ce type...
Ou dans les caves.
Oui, dans les caves, oui, exactement. Donc, c'est toujours intéressant aussi que tout le monde doit payer l'addition à un moment, et voilà, donc quand certains personnages ont des cadavres planqués sous la dalle de la cave...
On a du mal à ressortir.
Mais... Justement,
on n'était pas d'aller en plus.
Tu parlais tout à l'heure du fait que des zombies de toutes les époques reviennent et que submergent la population vivante. Aucun d'entre vous, il me semble, ne se pose la question justement d'éventuellement de l'hypothétique réinsertion des zombies dans la société.
Alors, moi, ça, je l'ai traité dans la nouvelle, dans l'anthologie Zombies et autres infectés. Où c'est chez Griffe d'encre. Où effectivement, on n'est pas du tout sur le même type de zombie. Dans cette histoire-là, il y a une épidémie qui a été rapidement endiguée, et on se rend compte au moment où on l'endigue qu'à peu près 1% des gens qui ont été infectés ont conservé leur raison. Voilà. Et on ne sait pas quoi en faire, donc, comme souvent. Et donc le gouvernement pense qu'il faut s'en débarrasser, mais il y a des lois qui sont votées, parce que malgré tout, s'ils ont gardé leur raison, c'est peut-être qu'ils ont gardé leur âme, enfin, etc. Et donc on décide de ne pas les réinsérer dans la société directement, mais on va dire de les mettre à profit. Donc il y en a qui deviennent des mineurs, il y en a... Voilà. Et le personnage principal de cette nouvelle... Donc, lui, il se retrouve cascadeur dans un parc d'attractions où il prend des balles réelles régulièrement avant d'être accommodé. Et il vit ça, enfin, c'est un jour sans fin, quoi. Voilà. Jusqu'au jour où une bande de terroristes, donc les membres du Zombie Freedom, interviennent et les font libérer dans des circonstances. Voilà.
Et toi, par rapport à la carte justement de la réinsertion du zombie, on parlait des revenants tout à l'heure justement, même si c'est pas des zombies à proprement parler, on s'en rapproche quand même fortement, au moins dans le film. Justement, on se rend compte qu'ils reviennent.
Ouais.
On a la tentation de les réinsérer, on se rend compte que du coup ils sont beaucoup moins intelligents que ce qu'ils étaient pas avant. Donc du coup ils sont tous dans des postes subalternes en fait. Ou plutôt là, justement, ils finissent plutôt mineurs.
Non, mais moi, ils sont pas inférieurs. De toute façon, le but, c'est... Voilà, ils sont morts. De toute façon, je suis assez flou là-dessus. Hein. C'est genre...
Qu'est-ce qu'on en fait après, en fait?
On n'en fait rien, parce qu'ils vont tous mourir qu'on aura une nouvelle... Mais tu vois, c'était Leeds of Flesh, là, qui est vraiment une série qu'il faut regarder. Hein. Je vous conseille, si vous pouvez la télécharger ou l'acheter en DVD, si ça existe. Mais c'est une série anglaise, donc généralement ils évitent les clichés, et c'est vraiment très très bien. C'est comme tu disais, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont guéris, mais qui peuvent faire des rechutes, mais on en fait quoi? Et en plus, c'est un peu difficile dans un village où le jeune homme qui est votre voisin et qui est guéri a quand même mangé votre fille, quoi. Donc ça fait des tensions, et c'est
plutôt oui.
Non, mais c'est ça, c'est vraiment très bien. Je sais pas, c'est quoi, c'est 2 fois 3, donc, mais c'est vraiment bien, quoi. Puis bon, c'est vraiment qualité, et c'est tellement différent de ce qu'on peut voir sur les zombies. Donc voilà, In the Flesh, dans la chair. Et je vous conseille de regarder ça.
Non, je voulais pas te couper.
Non,
oui. Donc, tu as aussi un traitement intéressant du zombie dans le roman Ma vie chez les morts de Brussolo. Je sais pas si tu connais.
Pas celui-là.
Ouais. Donc, alors, je sais pas, parce que des fois, il change de titre dans les rééditions des bouquins de Brussolo.
Il est un peu trop écrit au bout d'un moment, c'est compliqué.
Ou Donc là, dès le départ, on connaît l'origine des zombies, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'épidémie. C'est ni plus ni moins qu'un scientifique trouve le moyen de ramener à la vie des gens qui sont morts. Et donc au départ, il n'y a que les puissants de ce monde qui en profitent. Et puis ça finit par s'ébruter et il y a plein de gens qui utilisent sa machine ou je ne sais plus quel procédé pour les ramener. Sauf que bon, ben, ils sont là, ils sont bien en chair. Mais bon, c'est des zombies quoi. Je veux dire, ils bougent pas trop. De temps en temps, ils fredonnent. De temps en temps, il y en a qui se réunissent entre eux et ils émettent des sons, un peu comme les baleines. Et donc on suit le narrateur qui est un jeune garçon dont la mère est infirmière, qui est envoyé dans un camp de détention, parce que comme ils ne savent pas comment faire, tellement il y en a, ils les réunissent au même endroit, et elle s'emmerde, parce que de toute façon, c'est des zombies, quoi, elle n'a pas besoin de les soigner. Voilà. Mais lui, il aime bien, il arrive un petit peu à nouer quelques interactions avec ces créatures, mais finalement, comme la société ne sait pas quoi en faire, il décide de détruire la machine, et après, il coule tout simplement tous les zombies dans du béton, parce qu'ils ne peuvent pas les tuer. Donc, il les coule dans du béton, et le roman se termine, je crois que le gamin va de temps en temps coller son oreille sur la dalle et les entend chanter. Quoi.
C'est du brusselot, quoi.
Ouais, c'est du brusselot.
Comment il s'appelle ?
Ma vie chez les morts.
On a écrit un paquet, mais celui-là, ouais.
Là, je
pas. C'est vrai qu'il a abordé quand même pas mal de thématiques. Je ne savais pas qu'il s'était penché sur le cas du...
Ah, mais enfin, brusselot, tu ne le rates pas, quoi. Donc,
ouais, c'est ça, et dans tous les genres.
Madame, elle a une question.
Oui, pardon. Allez-y. Oui, allez-y.
Non, c'est pas une question. En tant que lectrice assidue de Bouddhélie, je voulais juste ajouter un truc de l'aspect survie. Et je trouvais que dans ces romans, il y avait une dimension autre qui était que les héroïnes, elles n'ont pas choisi de faire. Elles ne font pas partie par hasard d'un groupe de survivants, en fait. Elles sont nées pour survivre et pour tuer les zombies. Et ça, c'est une différence par rapport à... J'ai pas voulu, messieurs, désolé. qui fait un aspect dans le roman qui est vraiment unique, en fait.
Oui, justement, c'est le côté Buffy de ton roman.
Parce que Buffy, c'est ouais. L'élu, c'est ça.
Hein. Ouais. Ouais, voilà, c'est pareil, une tueuse par génération.
Et du coup, il y a ce conflit aussi intérieur du personnage qui... le conflit d'élu, finalement, qui n'a pas choisi de faire ça, mais qui pourtant doit le faire. Voilà, c'est assez psychologique que je trouve aussi intéressant.
Merci.
Ouais, parce que sinon les zombies, l'aspect psychologique, il est assez
ouais,
voilà. Justement, tu disais tout à l'heure par rapport à ce qu'on a pu essayer de faire dire aux zombies depuis ouais. Romero. Ouais. Finalement, toi, tu es plutôt, que j'en comprends, dans l'optique de l'entertainment du personnage. Il n'y a pas forcément de fond social, politique, à l'utilisation du zombie.
Ah, je sais pas, moi dans mon bouquin, oui, il y a un fond social et politique, mais c'est pas... C'est pas par rapport aux zombies. Moi, pour moi, j'utilise vraiment comme le truc qui détruit et qui rend plus possible la société actuelle et une reconstruction normale d'une société actuelle. Après, effectivement, il y a des gens qui l'ont utilisé comme ça, comme une sorte de reflet de la société qui se déshumanise et qui se limite à des tâches répétitives.
Et la métaphore du capitalisme avec le supermarché,
ouais, avec le supermarché, mais qui revient dans le supermarché. Mais c'est une partie du zombie, parce qu'après, il n'y a aucune raison d'aller bouffer les autres. Ou alors c'est, je sais pas, j'assimile les autres en les bouffant, ou je sais pas, ou un truc... Après dans la plupart des bouquins et des films, il n'y a pas cette image. Hein.
Mais oui.
Il y a le zombie qui est cette peur, qui est cette menace, et qui est cette... Tu vois, qui est une peur panique ingérable, et puis voilà, tu discutes pas avec un zombie, quoi.
Il y a cette peur.
Avec un communiste, quand même, tu pouvais quand même à l'époque, dans les 50, même s'il envahissait les États-Unis, tu pouvais quand même en
discuter. Non,
voilà, écoute, Boris, tu vas détruire mon pays, mais quand même.
Je ne jetterai pas la pierre à Cthulhu, mais on peut voilà. Discuter autant de vie avec une table comme le père.
Voilà,
et justement, par rapport à ce, je ne sais plus où j'en étais. Je me suis perdu en cours de questions, c'est dommage.
Tu étais justement, au rôle social. Du film du récit de zombies qui détruit.
Oui, alors toi, il y a plutôt cette idée de faire table rase finalement de la société.
Bah, c'est ce qui arrive à chaque fois dans les trucs de zombies. Enfin, pas à chaque fois, mais en général. En général, il y a
ce truc qui va qui a déjà tout détruit ou qui est en train de tout détruire et qu'on ne peut pas arrêter. De toute façon, généralement, les gens ne luttent pas pour endiguer l'invasion zombie, ils luttent pour survivre. Donc là, j'ai pas du tout envie de faire ça, donc tout est détruit, c'est bon, et c'est réglé. Ça se passe en une nuit, les mecs ils se couchent le soir, tout va bien, ils se réveillent le lendemain matin, c'est la fin. Parce que c'était pas le. Parce que c'était pas ce que j'avais pas envie d'en. Enfin voilà, c'est pas le thème qui m'intéresse. Quoi. Donc bah là, tu te retrouves dans. Voilà. Ça aurait pu être une explosion nucléaire, une guerre nucléaire.
Et qu'est-ce qu'on peut pas voir aussi quand même dans ton bouquin, certains hommages à des. Par exemple, un Walking Dead, quand justement on voit les militaires essayer de prendre le pouvoir dans le truc, ce qui fait largement penser.
Les militaires veulent toujours prendre le pouvoir, c'est bien. non, pas Walking Dead, non, parce que j'ai pas tellement aimé la série en fait. J'ai juste aimé la première saison et après ça m'a saoulé. Je reconnais des qualités, mais je trouve que ça s'enlise. Clairement, dans une situation où le pays est en ruine et qu'il reste des paramilitaires ou des militaires, s'il y a des gens qui. Mais c'est ce qui se passe aussi dans pas mal de films. Hein. Il y a des organisations qui ont des armes et qui peuvent imposer une sorte de pouvoir ou essayer. Parce que c'est clair que si on se retrouve à 10 000 dans Paris, c'est facile de se planquer ou d'échapper au contrôle de. Une nouvelle. Je ne sais pas, Joker.
Et vous deux, il y a quand même ce côté un peu magique, ou une sorcellerie, malédiction associée à la créature en fait.
Oui, parce que moi, les infectés, ça commençait à me saouler. Et puis je voulais du vrai mort-vivant. Donc effectivement, revenir un peu aux sources. On ne sait pas forcément, même si là c'est une histoire de malédiction, on ne sait pas pourquoi il s'anime parce que. Enfin, le problème de l'infecté, c'est que, à un moment, il finit par plus pouvoir bouger. Quoi. Enfin, je veux dire, on parlait tout à l'heure de la fin de 28 jours plus tard, où ils finissent par crever de faim. Moi, l'avantage, c'est que même mes vieilles momies des tourbillères qui ont plus de muscles, parce que c'est plus que du cuir sur des os brisants, ben, elles arrivent à se mouvoir. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, voilà. Et je trouve assez sympa de voir d'imaginer ce genre de créature s'extraire de la terre pour avancer, même en rampant, etc. Ce que tu peux pas forcément faire avec de l'infection. Quoi. Et puis l'infection, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment, je refais à nouveau un parallèle avec 28 jours plus tard, c'est que c'est pas du mort-vivant. C'est une personne infectée, enragée, etc. Donc moi, je voulais vraiment ce côté magique, ce côté malédiction, fantastique.
Ouais, pareil. Moi, je trouvais sympa l'idée de pouvoir être dans une foule, même dans une salle comme ça, et tout à coup, il y a les sorciers vaudous qui décident que l'un d'entre vous va être un zombie, et l'infection commence comme ça. Donc avec la magie, sans besoin d'être mordu. C'est plus sympa de pouvoir
tombe un peu au hasard.
Voilà, ouais, d'être complètement random n'importe où et pas s'y attendre.
Parce que du coup, toi, dans cette optique-là, n'importe quel être vivant peut se transformer en zombie. Toi, c'est uniquement ceux qui sont déjà morts finalement.
Et ceux qui meurent au cours de la nuit, qui forcément, comme on est sous le coup de cette
malédiction,
se relèvent immédiatement.
Trop con, c'est arrivé vraiment.
C'est dans la merde. Hein.
Un éclair de lucidité.
Est-ce que vous avez des questions à nos auditeurs par rapport au thème du zombie, des questions aussi sur leur production annexe?
Le mode de reproduction des zombies. Oui.
Une question générale, c'est comment vous percevez justement le fait que le zombie, là, depuis quelques années, est vraiment très très à la mode. Alors littérature, effectivement, cinéma, série télé, je pense aussi aux marches, aux parades des zombies, dans les villes, je pense aussi du jeu de plateau, de stratégie, d'ambition, plein. Pourquoi?
Alors on avait fait une conférence à Lyon avec un monsieur qui s'appelle Raphaël Colson et qui nous avait fait des petits tableaux. On avait regardé des tableaux et c'était assez marrant de voir les périodes où il y a des récits pas forcément de zombies mais de peur généralisée. En fait, ça correspond assez à des périodes de crise dans les années 50, 60, plutôt 60, c'est le, aux États-Unis, la grande peur de l'invasion soviétique, qui est vraiment réelle, qu'on n'a peut-être pas eu trop en France, là on n'était pas nés, mais où les gens commencent à construire des abris, où il y a plein de films. Et là, c'est le début de cette menace.
Juste une légende, hein. Voilà. 57 ou 58, je crois, le bouquin.
Ensuite, les années 80, c'est vraiment la guerre froide, où ça, j'ai des souvenirs, où il y a vraiment cette idée que la guerre peut... On peut avoir une guerre nucléaire. C'est crédible. Ça dure pendant une dizaine d'années. Et c'est aussi la deuxième période où il y a les deuxièmes Romero et tout ça. Mmh. Et aujourd'hui, on est aussi dans une période d'incertitude généralisée. Plus une menace... il y a la menace terroriste, mais elle est quand même assez localisée. Mais on a une sorte d'incertitude générale sur le futur, dans la société, et de peur, en fait. On le voit avec les histoires de migrants, où tout d'un coup, les villages s'enflamment parce qu'il y a 15 mecs qui vont arriver dans une population de 10 000. Et c'est possible que ce qu'elle soit une sorte de reflet d'une peur plus généralisée et de période où, effectivement, on a peur des autres, on a peur d'une menace qu'on n'arrive pas trop à identifier, et que ça se reflète dans les écrits imaginaires. Il y a aussi le fait de mode.
C'est marrant ce que tu dis, en fait, ce que disait Raphaël Colson, c'est exactement le discours de Jean Marigny sur le thème du vampire. Il dit que le vampire revient cycliquement dans l'histoire des 200 dernières années, en phase avec des périodes de crise. La Deuxième Guerre mondiale, Chamblot de Catherine Moore en 1933, Je suis une légende avec justement la peur du nucléaire, et ainsi de suite. Les années 80, il y a la peur du sang contaminé avec Les Prédateurs de Whitley Strieber, ou d'autres récits, ce que tu disais par rapport à la guerre froide avec d'autres récits aussi. C'est qu'on a l'impression que toutes les créatures surnaturelles finalement sont sujettes à des retours cycliques en phase avec.
Soit un reflet de la peur de la société, soit une manière de l'exorciser, je sais pas.
Je suis d'accord avec toi.
Non, tu peux dire
tout pareil.
Oui, je veux rien ajouter.
Est-ce que j'ai d'autres questions?
Après, effectivement, il y a l'effet de mode.
Oui,
donc, là, comme on a eu l'effet de mode Beatlit auparavant, etc.
C'est moins sexy. C'est difficile de faire du sexy, je pense, avec le vampire.
Avec le zombie.
Avec le zombie, faire du sexy avec du vampire, c'est.
Là, avoir le disent.
Oui, voilà, oui, mais il y a un cas.
Ouais, non, mais c'est vrai. C'est très localisé.
Un mec qui bave.
Écoute, il y a un roman pour jeunesse qui s'appelle un truc comme J'ai embrassé un zombie et j'ai aimé ça, ou je sais plus. J'ai essayé de lire le début, mais c'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un zombie qui est dans son école.
C'est le Twilight du zombie, quoi.
C'est le Twilight du zombie, voilà. Donc il sent un peu, elle dit, mais c'est pas tellement grave, il est tellement séduisant. Mais c'est pas, j'invente pas, hein, c'est vrai.
Et là, tu visualises les zombies de Romero, tu dis, ouais.
Mais tu sais, c'est finalement.
Les jeunes d'aujourd'hui. Ouais.
Enfin, plus on va dans des choses comme ça, plus on a des créatures qui correspondent plus aux zombies. Donc voilà, enfin, pour eux, on fait ce qu'on veut, hein, c'est la littérature, il n'y a pas ce monde de barrière.
Finalement, il y a, c'est comme ce qu'on disait au début, le fait qu'on a beaucoup gommé les origines haïtiennes du zombie et que le zombie a évolué au fil du temps, en fait. Ouais. Jusqu'à devenir quelque chose qui ne ressemble plus du tout à un zombie. Hein. Ouais. Le vampire, c'est pareil avec Edward dans Twilight ou avec ce qui a pu se passer derrière. C'est qu'il n'y a plus grand-chose à voir avec le vampire du folklore pré-littérature ou même avec Dracula. Quoi.
C'est bien de faire évoluer les mythes, mais des fois, c'est pas toujours heureux.
Bah on y perd un peu leur sens caché, en fait.
Oui, oui. Enfin, dans Twilight, c'est clair, ça ne correspond plus à grand chose.
Non. Bah, c'est des super-héros, quoi.
Ouais, ouais.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui.
J'ai une remarque et une question. Alors, est-ce que le fait que le zombie qui ressort de terre, c'est seulement parce qu'on est en terre, va être vers le haut? Parce que déjà, ils ne sont pas capables de reconnaître déjà le haut du bas. Parce que si on est en terre, la tête en bas, ils creuseraient.
Ouais, je te dirais que c'est peut-être comme les oiseaux migrateurs. Ils connaissent le sens.
Ils ont un radar.
Ouais, c'est possible. Ouais.
Non, mais ils s'orientent à Louis.
Ah, c'est pour ça. Et la question, c'est est-ce que justement le rapport qu'il y aurait entre le vampire et le zombie, et aussi en partie le garou, c'est le fait que ce sont des créatures qui sont d'origine humaine et qui sont infectées par un autre, qui deviennent, en fait, qui transmettent leur caractéristique en fait à un autre, justement par le contact ou la morsure. est-ce que le fait que justement ça empêche des créatures qui soient autant à la mode fait que justement ils peuvent se propager comme ça? Alors qu'un alien reste un alien, un con reste un con.
Cthulhu restera Cthulhu.
Je crois qu'il y a la dimension aussi de contamination qui doit remonter à une peur de la maladie, je suppose, quelque part. Puisque nous, on vit dans une société qui a même, enfin, dans une époque qui est assez médicalisée, mais on remonte à 50 ans et plus encore, où les effets de contagion et d'épidémie sont quand même assez graves. Donc, cette transmission du mal, je ne sais pas, c'est peut-être un truc plus critique, je ne sais pas.
La morsure est sale.
Ouais, et puis il y a tout un symbolisme là-dessus, sur manger l'autre, le sang, la symbolique du sang, elle est énorme, même sans parler des vampires. Hein. Et puis le loup-garou, c'est quelque chose de très très vieux, hein. C'est la transformation de l'être en quelque chose de mal, quoi. C'est le côté caché de l'être qui tout d'un coup se révèle et qui est sauvage, quoi. Contrairement aux zombies, le loup-garou et le vampire, c'est des mythes qui remontent à très longtemps, qui se basent vraiment sur des croyances et des peurs, on va dire, ancestrales, alors que le zombie, c'est très très récent. Mmh.
C'est une des seules créatures comme ça qui datent du siècle dernier.
Ah bah ouais, c'est 50 ans, quoi. Donc c'est assez fascinant pour ça, quoi.
Que ça ait fait autant école et que finalement, ouais, que cette créature soit ici au même niveau que de créatures qui ont 2000 ans, en fait. Hein. Ouais.
qui n'ont pas un fond de superstition et de traditionnel.
C'est pareil, je pense que, enfin, moi c'est une connerie, mais le zombie au niveau haïtien, c'est pas non plus extrêmement ancien. On a l'impression que c'est juste avec le contact avec la société américaine.
Ben, que... C'est vaudou, le vaudou, ça date de l'arrivée des esclaves.
Oui, c'est ça. Donc finalement, à l'échelle de l'humanité, c'est beaucoup plus ancien et de beaucoup moins ancien qu'on trouve des vampires qu'on appelait pas des vampires, mais durant l'Antiquité grecque, il y avait des créatures similaires. Ouais. Des loups aussi. Hein.
Non, pas
jamais. Ah, je sais pas, je connais pas grand chose, mais peut-être que le vaudou a une base, de toute façon, a une base clairement en Afrique, mais je connais pas les rites qu'il peut y avoir en Afrique, qui est au contact de la civilisation chrétienne, sont transformés en vaudou, quoi, c'est une sorte de mélange. Je sais pas. Il y a peut-être des mythes comme ça de morts-vivants en Afrique qui sont très très vieux, qui ont abouti à des sortes de vaudou, je sais pas. Je connais pas. Enfin, et y a, pour le vaudou haïtien, il y avait des études qui ont été faites que. Ce serait un truc véritable, en fait, que des gens brogueraient d'autres personnes pour s'en servir comme esclaves, en fait. Et que du fait de la consommation de cette drogue qu'on leur fuirait, ça les rendra morts. Donc apparemment, ça, c'est une base historique qui est assez, assez crédible. Mais ça n'en fait pas non plus des créatures qui marchent la nuit pour essayer de vous bouffer la cervelle.
Qui ont fait manger du sang tout noir.
Fait des esclaves à mort, fait soumis, quoi. Je ne sais plus ce que c'était la drogue qui leur filait, mais...
De poisson, je crois.
Ouais. Et t'as pas utilisé ça,
non? Non.
Après, on parle... Arthur parlait justement des loups-garous, des vampires. À mon sens, il y a quand même un truc à part entre vampires et zombies, qui sont des morts animés, et le loup-garou qui reste quand même une créature vivante. C'est pas un mort, le loup-garou. Il y a ce basculement régulier chez lui entre l'homme et la bête. Mais ça reste quand même une créature vivante. Mais les deux autres, en fait, on a l'impression justement que chez le vampire et le zombie, il y a peut-être beaucoup plus de facilité à faire du magnétisme avec les créatures qu'avec le loup-garou, qui est plus ambivalent parce qu'il a les deux parts en lui, en fait, quoi. Je sais pas si...
Mais même le vampire, à la base, il n'est pas humain. En fait, il est possédé par un...
C'est un mort qui est possédé par quelque chose, quoi.
Ouais, par un esprit maléfique, quoi, non ? C'est pas ça,
c'est... C'est chez Anne Rice, mais...
Non, mais avant, ça.
C'est des créatures maudites. C'est comme pour les zombies dans le folklore, les vampires de Serbie, de Tchécoslovaquie, ouais. C'est des créatures qui ont été maudites durant leur vivant ou qui ont été... maudites parce qu'elles ont eu une vie dissolue et à leur mort elles se relèvent en tant que vampires, en fait. D'accord. Comme ça pourrait être le cas avec un zombie. Hein. Okay. Il y a vraiment cette notion de la notion de malédiction, en fait, quelque part là-dedans. Le loup-garou, il y a cette façon de malédiction, par contre, le personnage reste vivant, en fait.
Oui, le loup-garou, c'est la dualité entre l'humanité et la sauvagerie. Qui...
Parce que vous, du coup, dans vos trois romans, le zombie, en fait, il n'y a pas de notion, finalement, de bien et de mal par rapport à ce qu'il fait, en fait. Hein,
non, il fait ce qu'il a à faire.
Ouais. Il se pose pas de questions.
Ça, just do it.
La bonne parade, c'est de mettre des combinaisons anti-chiens. Parce que finalement, voilà, on va se faire mordre. Bon. Par contre, les dentistes ne voient pas trop le.
Ah ouais. Quelques difficultés à.
Au mieux les tuer.
Non, mais c'est un peu ce que fait le personnage de Michonne dans The Walking Dead quand elle arrache la mâchoire inférieure. On dit que l'inférieure.
Dans World War Z, je crois que c'est la Corée du Nord à arracher toutes les dents de tous les habitants. Pour endiguer l'épidémie.
Ouais.
Ça peut marcher,
c'est un peu fastidieux. Mais...
Et extrême.
Extrême, ouais.
Ouais. Mais bon, pas, hein.
Bon, ce qui les empêchera pas de se faire contaminer par les pays voisins, hein, mais.
Du coup, je pense qu'on va en rester là pour cette table ronde sur les zombies et je vous souhaite une bonne poursuite de festival.
Merci.